Étude sur la seconde épître à Timothée par Henri Rossier, édition 1958. Chapitre 4.
Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivants et morts, et par son apparition et par son règne, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte, avec toute longanimité et doctrine, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement. Mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Car, pour moi, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur, juste juge, me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Empresse-toi de venir bientôt auprès de moi, car Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle. Et il s'en est allé à Thessalonique, Crescent en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Or, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé en Troade chez Carpus, et les livres, spécialement les parchemins. Alexandre, l'ouvrier en cuivre, a montré envers moi beaucoup de méchanceté. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fort opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila et la maison d'Onésiphore. Éraste est demeuré à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Empresse-toi de venir avant l'hiver. Eubulus et Pudens et Linus et Claudia et tous les frères te saluent. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous.
Versets 1 et 2.
Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivants et morts, et par son apparition et par son règne. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte, avec toute longanimité et doctrine.
Cette adjuration nous montre combien le sujet dont il va être question importe au cœur de l'apôtre. C'est la partie culminante des exhortations adressées à Timothée. Aucune n'est aussi imposante que celle-ci. L'adjuration est faite en présence de Dieu et de Jésus-Christ et contient la pensée de l'immense solennité de cette présence. Le Seigneur nous est présenté ici sous deux aspects. Premièrement, comme juge, il va juger vivants et morts. Ce jugement prochain est la raison urgente de l'adjuration. En effet, dès la formation de l'Église, le Seigneur a commandé à ses disciples de
prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi de Dieu juge des vivants et des morts.
Acte 10, verset 42. Deuxièmement, comme dispensateur des récompenses à ses serviteurs, l'apôtre nous le montre ici. Il y reviendra plus tard au verset 8. Lors de son apparition et de son règne, c'est surtout la récompense de ses serviteurs à son apparition qui occupe ici la pensée de Paul. quand il règnera, tous ses ennemis auront été mis sous ses pieds, et il ne sera plus nécessaire de tenir ferme pour l'Évangile. La victoire ayant été remportée par Christ sur tout ce qui s'est opposé à ses desseins de grâce. 1 Corinthiens 15, verset 25.
Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds.
À quoi Timothée est-il adjuré? Tandis que, au chapitre 3, verset 14, il était exhorté à demeurer dans les choses qu'il avait apprises, il est adjuré ici à les prêcher, à les annoncer au dehors. De Timothée 3, verset 14.
Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises.
Timothée avait commencé par recevoir ces vérités pour lui-même, et, d'une manière générale, toute la parole inspirée de Dieu. Maintenant, le vase étant rempli, et c'est pour cela qu'il l'avait été, il devait se vider au profit des autres. Le temps pressait, la venue du Seigneur était proche. Il fallait insister, même hors de temps, sans attendre, comme en Éphésiens 5, verset 16 et Colossiens 4, verset 5, l'occasion pour la saisir. Éphésiens 5, verset 16.
Comme étant sage, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais.
Colossiens 4, verset 5.
Marchez dans la sagesse envers ceux de dehors, saisissant l'occasion.
Il fallait convaincre, 1 Timothée 5, verset 20, atteindre la conscience, provoquer la repentance chez ceux qui, jusqu'ici, avaient été indifférents. 1 Timothée 5, verset 20.
Ceux qui pêchent, convainc-les devant tous, afin que les autres aussi aient de la crainte.
Il fallait reprendre ceux qui s'étaient laissés entraîner dans le courant du monde. Il fallait exhorter ceux qui perdaient courage ou devenaient timides en présence du débordement du mal. Ce travail exigeait toute longanimité, de la patience, de la douceur en même temps que de la fermeté, seul moyen de convaincre sans soulever de l'opposition. Timothée devait en outre s'appuyer exclusivement sur la doctrine contenue dans cette écriture inspirée dont l'apôtre venait de parler. Versets 3 et 4.
Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers les fables.
L'heure était solennelle, le temps pressé, car un temps allait venir où les âmes ne supporteraient pas le saint enseignement de la parole de Dieu. Chapitre 1, verset 13. Et un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus, où toute prédication serait vaine et de nul effet. Ces gens s'amasseraient des docteurs selon leur propre convoitise et courraient après les imaginations de leur cœur. Au chapitre 2, verset 18, c'étaient les faux docteurs qui les entraînaient vers leurs erreurs mortelles. De Timothée 2, verset 18,
qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection a déjà eu lieu et qui renversent la foi de quelques-uns.
Ici, ce sont eux-mêmes qui, faisant un pas de plus dans le mal, veulent ces docteurs, les choisissent, se les établissent comme conducteurs, afin qu'ils répondent, en les encourageant et en les approuvant, aux convoitises de leur propre cœur. La conséquence était que leurs oreilles ne pourraient plus supporter la vérité, celle-ci n'ayant désormais aucun goût, aucun sel pour eux, et qu'ils se tourneraient vers des fables d'invention humaine. Car il faut bien croire à quelque chose. Lesquelles remplaceraient l'Écriture? Pourrions-nous nous cacher qu'aujourd'hui ce temps-là n'est plus à venir, mais est venu? Verset 5.
Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service.
En contraste avec ces gens, Timothée avait à déployer tous les caractères d'un vrai témoin, d'où les mots « mais toi ». que nous avons déjà rencontré avec la même intention au chapitre 3, versets 10 et 14.
Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Sois sobre en toutes choses.
Son caractère devait être complètement opposé à ceux qui, sous l'influence des faux docteurs qu'ils s'étaient choisis, s'enivraient des doctrines fatales qui leur étaient servies. Nourri de la parole, Timothée pouvait garder son cœur et ses pensées éloignés de tous les principes par lesquels le monde enivre les âmes.
Endure les souffrances.
Cette épître nous a déjà montré maintes fois que telle est la part d'un chrétien fidèle en un temps où la maison de Dieu est devenue une grande maison, contenant les éléments les plus disparates. Les dangers des enfants de Dieu au milieu de cet état de choses, l'indifférence croissante à la vérité, la défection de ceux sur la fidélité desquels on avait cru pouvoir compter, les calomnies destinées à ruiner moralement les vrais témoins, les assauts contre la parole de Dieu, l'état des assemblées, entraînées dans le courant du monde, étaient autant de causes de souffrance pour l'apôtre et devraient l'être pour nous que la fin des siècles a atteint. Timothée est exhorté à endurer ses souffrances. Le Seigneur ne l'avait-il pas fait? Et l'apôtre n'avait-il pas fidèlement suivi ce divin modèle? De Timothée 1, verset 8.
N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu.
1 Timothée 1, verset 12.
C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié.
De Timothée 2, verset 2.
Les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles, qui soient capables d'instruire aussi les autres.
De Timothée 2, verset 3.
Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ.
De Timothée 2, verset 12.
Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui.
De Timothée 3, verset 11.
Mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, quelles persécutions j'ai endurées.
De Timothée 4, verset 5.
Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste.
Nous ne devons pas en conclure que ce ne fut pas proprement le don de Timothée, mais l'évangélisation devait être mentionnée, parce que la fonction assignée à Timothée était la conduite de la maison de Dieu, et cette seconde épître nous montre que la grâce l'avait placé là, comme témoin d'un chemin selon Dieu, au milieu de la ruine. Or, l'état de cette maison exigeait que la prédication revêtît le caractère de l'évangélisation. Il y avait dans ce milieu un grand nombre d'âmes, aujourd'hui la plupart, entièrement étrangères à la grâce et qui devaient être amenées à Christ par l'Évangile. C'était là qu'il fallait convaincre ceux qui ne tenaient au christianisme que par une profession sans vie.
Accomplis pleinement ton service.
Nous allons voir, verset 7, que l'apôtre l'avait accompli.
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course.
Il désirait que son enfant dans la foi fît de même. Ne devons-nous pas aussi prendre à cœur cette exhortation, nous qui sommes si près du temps où il ne sera plus possible à ses professants de revenir en arrière, car un aveuglement judiciaire les empêchera de prévoir la ruine subite qui viendra sur eux. En ce temps-là, il sera dit
que celui qui est injuste commette encore l'injustice.
Apocalypse 22, verset 11. Versets 6 à 8.
Car, pour moi, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice que le Seigneur juste juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition.
Au moment de son départ, l'apôtre passe en revue toute sa carrière. Il la résume en 3 points. Premièrement, j'ai combattu le bon combat. Il ne s'agit pas ici de la victoire remportée sur l'ennemi, comme cela a lieu en Éphésiens 6 et en tant d'autres passages, mais du combat où l'on est donné en spectacle, les anges et les hommes en étant spectateurs. C'est le combat dans la lice du chapitre 2, verset 5.
De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois.
Le bon combat de la foi est pour la foi dont il est question en 1 Timothée 1, verset 18.
Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat.
1 Timothée 6, verset 12.
Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle.
Jude 3.
Bien-aimé, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints.
1 Corinthiens 9, verset 25.
Or, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. Eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible.
En effet, il s'agissait de démontrer à tous les yeux ce que c'est que la foi qui nous amène à la victoire finale sur le monde en surmontant tous les obstacles. C'est le même combat dont il est parlé en Philippiens 1, versets 16 et 30, la défense de l'Évangile que les Philippiens avaient soutenu. Philippiens 1, verset 16.
Ceci par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile.
Philippiens 1, verset 30.
Ayant à soutenir le même combat que vous avez vu en moi et que vous apprenez à être maintenant en moi.
Deuxièmement,
j'ai achevé la course.
Notre course a une grande nuée de témoins. Ils nous entourent et l'ont eux-mêmes achevé. Hébreux 12, verset 1.
C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous.
C'était ce que l'apôtre désirait pour lui-même en parlant aux anciens d'Éphèse, acte 20, verset 24, et ce qu'il réalise ici, acte 20, verset 24.
Mais je ne fais aucun cas de ma vie ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus.
Il était arrivé au bout de la carrière, touchant déjà, comme il est dit en 1 Timothée 6, verset 12, de la main la vie éternelle. 1 Timothée 6, verset 12.
Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé.
Troisièmement,
j'ai gardé la foi.
C'était le bon dépôt qui avait été confié à Timothée, 1 Timothée 6, verset 20, que l'apôtre l'exhorte à garder et dont il pouvait dire que lui-même l'avait gardé. 1 Timothée 6, verset 20.
Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes.
La foi est l'ensemble des vérités bénies confiées aux fidèles et dont aucune ne devait être abandonnée ni négligée. Combien il est important aujourd'hui de garder la foi. Ainsi, toute la vie chrétienne, dont les Jeux olympiques étaient le symbole, la lutte pour la foi, la course de la foi, la défense de la foi, voilà ce que l'apôtre avait accompli fidèlement jusqu'au bout de sa carrière. Tout cela étant achevé, il y avait encore devant lui la couronne de justice réservée à tous ceux qui, comme lui, auront gardé la foi. Cette couronne est incorruptible. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 26.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul reçoit le prix? Courez de telle manière que vous le remportiez. Or quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. Eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. Moi donc, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but, je combats ainsi, non comme battant l'air.
C'est le juste juge, c'est-à-dire celui dont la justice est le caractère, qui la donne. Il présidera à la solennité et distribuera les récompenses dans ce jour-là, jour de l'apparition du Seigneur que l'apôtre attendait. De Timothée 1, verset 12.
C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là.
De Timothée 1, verset 18.
Le Seigneur lui fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur dans ce jour-là. Et tu sais mieux que personne combien de services il a rendus dans Éphèse.
De Thessaloniciens 1, verset 10.
Quand il viendra pour être dans ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage envers vous a été cru.
La venue, parousie, du Seigneur en pure grâce pour enlever les siens ne manifestera pas la fidélité des serviteurs. C'est à son apparition que ce qu'ils auront fait et souffert pour lui sera mis en pleine lumière et récompensé. Alors l'apôtre ne sera pas seul. Tous ceux qui désirent être approuvés de lui, après la victoire remportée, tous ceux qui ne craignent pas d'affronter les difficultés, pourvu qu'à la distribution des prix le Seigneur leur exprime sa satisfaction, tous ceux-là aiment son apparition. Cependant, pour eux, le but du combat et le motif de la course n'est pas la récompense, mais la gloire et la satisfaction de celui qui a ordonné ce spectacle et le préside. C'est ainsi que se termine le sujet capital de cette épître que l'on pourrait intituler ainsi « Les diverses responsabilités et les ressources du fidèle au milieu des ruines de la chrétienté professante ». Versets 9 à 13.
Empresse-toi de venir bientôt auprès de moi, car Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle. Il s'en est allé à Thessalonique, Crescent en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service. Or, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé en Troade chez Carpus, et les livres, spécialement les parchemins.
Nous revenons maintenant aux circonstances de l'apôtre qui nous représente clairement la dernière phase de l'Église responsable, montrée en abrégé et vue par anticipation et comme prophétiquement dans les derniers événements de la vie de Paul. Si tous ceux qui étaient en Asie s'étaient détournés de lui au moment de sa capture et de son second emprisonnement, combien il lui était plus douloureux encore de voir un Démas, son collaborateur dans l'œuvre, Colossiens 4, verset 14, Philémon 24, associé jusque-là avec Luc, qui maintenant reste seul compagnon de l'apôtre, de voir, dis-je, Démas l'abandonner. Colossiens 4, verset 14.
Luc, le médecin bien-aimé, vous salue et Démas.
Philémon, verset 24.
Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre.
Hélas, la cause de cet abandon nous est donnée. Démas avait aimé le présent siècle. Peut-être ambitionnait-il dans le monde quelque position que ses relations avec Paul auraient pu compromettre. Nous ne le savons pas, mais ce qui est certain, c'est qu'en abandonnant l'apôtre, il était en contradiction absolue avec le but de l'œuvre de Christ pour les siens. Galates 1, verset 4.
Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père.
Démas avait quitté Rome dans ce dernier emprisonnement de Paul et s'en était allé à Thessalonique. La persécution mentionnée en 2 Thessaloniciens avait sans doute cessé alors. Quels étaient les motifs de Crescent et de Tite? Une chose semble certaine, c'est que l'apôtre ne les avait pas envoyés comme Tychique, verset 12. Ces motifs nous sont inconnus, peut-être étaient-ils en rapport avec l'œuvre du Seigneur, c'est ce qu'on peut inférer du silence de Paul. Mais pour nous, une sérieuse leçon s'en dégage. Nous pouvons avoir plus d'un motif sérieux qui nous sollicite quant à notre activité chrétienne. Défions-nous du motif qui nous fait éviter un danger et des difficultés quand il s'agit de l'œuvre. N'était-il pas de première nécessité, et comme un motif primant tous les autres, de se tenir aux côtés de l'apôtre devant le tribunal? N'en était-il pas de même pour les disciples lors du jugement de leur Seigneur? On peut avoir des motifs très plausibles d'activité dans l'œuvre, et cependant n'être pas à la hauteur d'un réel dévouement pour Christ. L'attitude de Marie, qui ne la mettait aucunement en relief, n'était-elle pas mille fois supérieure à celle de Marthe? Et cependant, qui aurait pu dire que Marthe ne devait pas servir?
Luc seul est avec moi.
Depuis le jour où il avait associé son sort à celui de l'apôtre,
Acte 16, verset 10. Luc semble ne plus l'avoir quitté. Acte 16, verset 10.
Et quand il eut vu la vision, aussitôt nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur nous avait appelés à les évangéliser.
Service désintéressé, prouvé par le fait que Luc ne parle jamais de lui-même, tandis que c'est l'apôtre qui parle de lui. Colossiens 4, verset 14.
Luc, le médecin bien-aimé, vous salue.
Philémon, verset 24.
Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre, te saluent.
Combien la défection de Démas dut être douloureuse à Luc lui-même. Mais de quel honneur la fidélité de ce dernier ne fut-elle pas récompensée quand, à lui qui n'était pas apôtre, fut confiée la rédaction inspirée de deux des livres principaux du Nouveau Testament.
Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le service.
Touchante recommandation. C'est Marc, autrefois entraîné loin de l'apôtre par Barnabas, qui est de nouveau ramené par l'apôtre lui-même. Le voilà réhabilité et restauré, retrouvant publiquement la communion avec Paul et par conséquent avec le Seigneur. Voyez Actes 15, versets 36 à 38.
Et quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons maintenant visiter les frères par toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Et Barnabas se proposait de prendre avec eux Jean aussi, appelé Marc, mais Paul trouvait bon de ne pas prendre avec eux un homme qui les avait abandonnés dès la Pamphylie et qui n'était pas allé à l'œuvre avec eux.
Mais déjà les Colossiens avaient précédemment reçu des ordres à son sujet qui le réhabilitaient auprès de l'assemblée. Colossiens 4, verset 10.
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, et Marc, le neveu de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu des ordres, s'il vient vers vous, recevez-le.
Ce fait aussi nous donne une instruction très utile. Un acte, jugé de tous, et jetant un jour défavorable sur un frère, nous ne parlons pas, cela va sans dire, d'un cas de retranchement, ne doit pas amener un jugement durable sur son caractère. Paul nous en fournit la preuve dans la manière dont il apprécie Marc. Son aptitude au service n'avait pas été mise en question par le fait que ce service avait été, pour ainsi dire, dévoyé. Il y avait néanmoins des départs qui ne pouvaient encourir aucune désapprobation. Celui de Tychique, par exemple. Si l'apôtre l'avait envoyé à Éphèse, c'était pour les besoins d'un service approuvé du Seigneur. Tychique entre en scène après le tumulte d'Éphèse. Acte 20, verset 4.
Et Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie, et les Thessaloniciens, Aristarque et Segond et Gaius et Timothée de Derbe et Tychique et Trophime d'Asie.
Il est de la province d'Asie, frère bien-aimé, fidèle serviteur, envoyé par l'apôtre pour réconforter l'assemblée d'Éphèse où Paul avait tant souffert. Éphésiens 6, versets 21 à 22.
Mais afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, comment je me trouve, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle serviteur dans le Seigneur, vous fera tout savoir. Je l'ai envoyé vers vous tout exprès, afin que vous connaissiez l'état de nos affaires et qu'il console vos cœurs.
Envoyé de même auprès des Colossiens, Colossiens 4, versets 7 à 9, pour consoler leur cœur. Colossiens 4, versets 7 à 9.
Tychique, le bien-aimé frère et fidèle serviteur, et compagnon de service dans le Seigneur, vous fera savoir tout ce qui me concerne. Je l'ai envoyé vers vous tout exprès, afin qu'il connaisse l'état de vos affaires et qu'il console vos cœurs avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de toutes les choses d'ici.
Toujours envoyé par l'apôtre en Tite 3, verset 12.
Quand j'enverrai Artémas auprès de toi, ou Tychique, empresse-toi de venir auprès de moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver.
Tychique était donc un frère particulièrement doué pour porter de fidèles messages, pour encourager, pour affermir. Nous pourrions l'appeler le consolateur des assemblées. Précieuse fonction, surtout dans un temps de déclin. Comme dans toutes les autres Écritures, l'apôtre était inspiré, ne fût-ce que pour parler de son manteau, des livres, des parchemins. Cette simplicité est très remarquable dans un pareil écrit. Comme son maître, l'apôtre ne planait pas au-dessus des têtes des hommes. Il partageait les mêmes circonstances. Il avait besoin de se garantir du froid, ce qui, en passant, nous initie à la rigueur de sa seconde captivité. Il lui fallait un matériel durable pour écrire. Les livres étaient des portions de la parole. Daniel 9, verset 2.
La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années.
Les circonstances de sa vie de chaque jour étaient ainsi amenées, conduites ou supprimées sous la direction du Saint-Esprit. Versets 14 à 18.
Alexandre, l'ouvrier en cuivre, a montré envers moi beaucoup de méchanceté. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fort opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne n'a été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, afin que par moi la prédication fût pleinement accomplie et que toutes les nations l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen.
Il est possible, mais nullement prouvé, que cet Alexandre, l'ouvrier en cuivre, soit celui qui est mentionné en 1 Timothée 1, verset 20, comme associé à Hyménée, pour avoir prononcé des blasphèmes. 1 Timothée 1, verset 20.
Du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
On pourrait avoir quelque raison de le penser, parce que sa grande méchanceté envers l'apôtre pourrait provenir de ce que celui-ci l'avait livré à Satan. Enfin, à cause de la sentence finale, prononcé sans appel et terrible dans la bouche d'un apôtre.
Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres.
Cette sentence s'expliquerait du fait que cet homme ne s'était pas repenti. Timothée est aussi exhorté à se garder de lui, parce qu'il s'est fort opposé aux paroles de Paul. Or, ces paroles étaient la parole de la prédication, dont l'apôtre dit qu'elle est véritablement la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 13.
Et c'est pourquoi aussi nous nous rendons sans cesse grâces à Dieu, de ce que, ayant reçu de nous la parole de la prédication, qui est de Dieu, vous avez accepté, non la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu, laquelle aussi opère en vous qui croyez.
Si ces deux Alexandres sont un seul personnage, cela donnerait à ce passage une solennité particulière. D'autres font avec moins de raison de cet Alexandre, celui d'Actes 19, verset 33.
Et ils tirèrent Alexandre hors de la foule, les Juifs le poussant en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait présenter son apologie au peuple.
Paul, libéré d'abord de sa première captivité, puis repris, reconduit à Rome et emprisonné, avait comparu devant le tribunal pour une première défense où personne ne s'était tenu à son côté, où tous l'avaient abandonné. N'en avait-il pas été de même pour son Seigneur et Maître ? Matthieu 26, verset 56.
Alors tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent.
Marc 14, verset 50.
Et tous le laissèrent et s'enfuirent.
Et quel contraste avec le commencement de la carrière de celui-ci, où ses disciples avaient tout quitté pour le suivre. Luc 5, verset 11.
Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent.
L'abandon où l'apôtre était laissé peut, à bon droit, fendre le cœur, mais je me demande si celui du Seigneur nous affecte de la même manière. Tel sera le cas si nous réalisons la perfection de son humanité, de sa sainteté et de son amour divin. Quant à Paul, si semblable à son Sauveur, personne ne s'était tenu près de lui pour plaider en sa faveur, pour se porter garant de son caractère, de ses intentions, de sa conduite. Mais quel contraste entre ce qu'il demande pour ses frères, si lâches dans leur conduite, et ce qu'il a proféré contre Alexandre. Il dit
« Que cela ne leur soit pas imputé. »
Il intercède pour eux, comme fit le Seigneur pour le peuple, comme fit Étienne pour ceux qui le lapidaient. N'est-ce pas le triomphe de la grâce ? Dans cette première défense, néanmoins, Paul n'était pas seul. Il dit
« Le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. »
Si son cœur souffrait de cet abandon, sa force allait en augmentant, parce que le Seigneur, source de toute miséricorde et de toute force, était avec lui.
« Bienheureux l'homme dont la force est en toi. Il marche de force en force. »
Psaume 84. Le Seigneur accomplissait ses desseins de grâce jusqu'au bout, et honorer son apôtre en faisant de lui l'agent de ses desseins. La prédication était pleinement accomplie par lui. Il était un exemple à son cher Timothée, auquel il avait dit
« Accomplis pleinement ton service ».
Verset 5. Il ne restait désormais plus rien à ajouter à sa prédication. D'autres la reprendraient par milliers après l'apôtre, mais il n'y avait plus de sujet nouveau à présenter. Tout cela avait été fait par l'apôtre, en sorte que tout ce qu'on chercherait à y ajouter plus tard, non seulement n'avait aucune valeur, mais était en pure et simple opposition avec la pensée de Dieu. Une note en bas de page. Il va sans dire que nous ne faisons pas allusion ici aux écrits composant l'Écriture, dont la liste n'était pas close lors de la seconde épître à Timothée. Fin de la note. Il fallait en outre, comme le Seigneur l'avait dit à son cher serviteur, que toutes les nations entendissent la prédication de l'Évangile. Acte 26, versets 17 et 18.
Te retirant du milieu du peuple et des nations vers lesquelles moi je t'envoie, pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière, et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés, et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi.
L'apôtre ajoute
« J'ai été délivré de la gueule du lion. »
Le lion rugissant qui rôdait autour de lui fut cette fois réduit au silence, pour revenir bientôt accomplir son œuvre meurtrière sur le corps de l'apôtre bien-aimé, qui suivait ainsi jusqu'au bout les traces de son maître. Psaume 22, verset 21.
Sauve-moi de la gueule du lion. Tu m'as répondu d'entre les cornes des buffles.
Mais Satan ne put empêcher, non, pas même un seul instant, que la prédication fût pleinement accomplie. Ce retour de l'ennemi dont la parole ne nous entretient pas, sauf pour nous dire que le temps du départ était arrivé pour Paul, n'avait aucune influence sur la confiance et sur la joie triomphante de l'apôtre. Il savait que si le Seigneur ne le délivrait pas du martyre, il le délivrerait jusqu'au bout de toute mauvaise œuvre et le conserverait pour son royaume céleste. Ainsi, son activité pourrait glorifier Dieu jusqu'au dernier moment, et s'il était retranché de ce monde, c'était pour jouir éternellement du royaume céleste que le Seigneur établirait à son apparition avec tous les saints.
À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen,
dit l'apôtre, en pensant à la gloire future de Christ pour le royaume duquel il sera conservé. Versets 19 à 22.
Salut Prisca et Aquila et la maison d'Onésiphore. Éraste est demeuré à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Empresse-toi de venir avant l'hiver. Eubulus, et Pudence, et Linus, et Claudia, et tous les frères te saluent. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous.
Timothée devait saluer Prisca et Aquila. Ses chers compagnons de l'apôtre étaient retournés à Éphèse, où Timothée pouvait les voir, quelques nouvelles édits les ayant chassés de Rome. Acte 18, versets 1 à 3.
Après cela, étant parti d'Athènes, il vint à Corinthe, et ayant trouvé un juif nommé Aquilas, d'originaire du Pont, tout récemment venu d'Italie, ainsi que Priscilla, sa femme, parce que Claude avait commandé que tous les juifs sortissent de Rome, il alla à eux, et parce qu'il était du même métier, il demeura avec eux et travaillait, car leur métier était de faire des tentes.
Acte 18, verset 26.
Et il se mit à parler avec hardiesse dans la synagogue, et Aquilas et Priscilla, l'ayant entendu, le prirent et lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu.
1 Corinthiens 16, verset 19.
Les assemblées de l'Asie vous saluent. Aquilas et Priscilla, avec l'assemblée qui se réunit dans leur maison, vous saluent affectueusement.
Romains 16, verset 3.
Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre dans le Christ Jésus.
2 Timothée 4, 19.
Salut Prisca et Aquila et la maison d'Onésiphore.
Il semblerait qu'Onésiphore n'était pas rentré dans sa famille. Éraste, quand Paul fut de nouveau saisi, était resté à Corinthe, ce qui n'implique pas un blâme. Paul avait laissé Trophime malade à Milet. Acte 20, verset 4 et 21, verset 29, ce qui prouve que 2 Timothée a été écrit après la première et lors d'une seconde captivité de Paul. Acte 20, verset 4.
Et Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie, et les Thessaloniciens, Aristarque et Segond et Gaius et Timothée de Derbe et Tychique et Trophime d'Asie.
Acte 21, verset 29.
Car ils avaient vu auparavant dans la ville Trophime l'Éphésien avec lui, et ils croyaient que Paul l'avait amené dans le temple.
Ce fait montre encore que la puissance miraculeuse des apôtres était exercée au service du Seigneur et non pour leurs intérêts particuliers. La recommandation de venir avant l'hiver est touchante et fait penser au manteau laissé en Troade. Bulus, Pudence, Linus, Claudia ne sont pas nommés autre part dans la parole. Tout ce qui a été dit sur leur compte par les commentateurs ne mérite aucune créance.